L'invité du Maine, une coproduction Fidélité Mayenne, RCF Sarthe.
Guillaume Pectier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président exécutif de Reconquête. Vous êtes de passage au Mans pour parler de l'Union des droites. Merci d'être venu dans les studios RCF. Jordan Bardella vient d'être élu président du Rassemblement national. Ça change quelque chose pour ce projet justement d'Union ?
D'abord, je félicite Jordan Bardella pour son élection. Et puis, je me réjouis toujours de voir des nouveaux visages parce que pour le coup, moi, le combat de mon engagement politique depuis 20 ans, auprès de Philippe de Villiers, de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui d'Éric Zemmour, c'est justement ce combat pour parvenir à l'union des droites, c'est-à-dire fédérer tous les Français patriotes, amoureux de la France. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, quand on voit ce qui s'est déroulé en Italie il y a 3 semaines avec la victoire de Giorgia Meloni la tête de l'Union des droites, oui, la France, si on veut la sauver du déclin économique, migratoire, scolaire, civilisationnel, ce que je souhaite, ce que je pose moi en tant que comme public, comme acte politique, c'est de dire à Jordan Bardella comme nouveau président du Rassemblement national,
vous lui tendez la main.
Comme au candidat aspirant à la présidence des Républicains, arrêtons d'être divisés. J'ai la conviction que nous sommes majoritaires en France, mais que nous perdons les élections parce que nous sommes incapables de nous unir. Une fois unis, nous gagnerons.
Justement, puisqu'on parle d'immigration, la semaine dernière, un incident a eu lieu en pleine séance à l'Assemblée nationale avec le parlementaire RN Grégoire de Fornas, qui s'est exclamé qu'il retourne en Afrique. Lui dit qu'il parlait du bateau d'Océan Viking. Ses opposants ont dit qu'il invectivait le député de la NUPES, Carlos Martens Bilongo. Déjà, qu'est-ce que ça vous inspire, cette sortie ?
Ça m'inspire une énième bouffonnerie de la classe politique et médiatique qui nous détourne de l'essentiel en créant des polémiques absurdes. Vous savez, j'ai été député. Alors, sur la forme, j'ai toujours été assez opposé aux invectives. Mais sur le fond, je soutiens largement le député du Rassemblement national.
C'est ambigu.
Il y a une certitude.
La langue française fait qu'on sait ce qu'il a dit, mais pas dans quel sens.
On le sait désormais, puisque le bureau même de l'Assemblée nationale, qui est composé majoritairement d'élus de la NUPES et de la majorité de M. Macron, ce bureau a jugé que ses propos n'étaient en rien racistes, qu'ils concernaient le bateau, mais que ces mots étaient inappropriés, avaient créé un tumulte. C'est l'article qui a été utilisé pour le sanctionner. C'est absolument scandaleux. Parce que quelle est cette volonté derrière cette polémique ? C'est la volonté d'une élite politique parisienne de criminaliser toute politique de fermeté migratoire. Moi, je revendique, nous revendiquons, nous, peuple français, le droit de dire qui nous souhaitons accueillir et qui nous ne souhaitons pas accueillir. Concernant ce bateau de migrants, il est hors de question de le laisser en pleine Méditerranée. Mais il y a un principe tout simple, ils n'ont pas leur place en Europe, ils n'ont pas leur place en France, ils doivent être accompagnés par nos gardes-frontières en Libye ou sur les côtes africaines parce que nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Notre devoir, nous, en tant que civilisation européenne, bien sûr, c'est d'ailleurs l'Union européenne le fait, 20 milliards d'euros chaque année, c'est de contribuer au développement de l'Afrique, mais de ne pas de piller les élites et les classes moyennes africaines, que les Africains restent en Afrique pour développer l'Afrique. C'est ça aussi un projet
justement,
de civilisation.
Justement, Guillaume Pectier, puisqu'on parlait de cet incident, on va revenir là-dessus. Olivier Marleix, leader du groupe LR au Palais Bourbon, s'est totalement désolidarisé. Il a dit ce qui différencie la droite de l'extrême droite, c'est justement le racisme. De son côté, Bruno Retailleau a dit qu'il n'y avait rien de raciste. Est-ce que des LR divisés à un mois de l'élection de la présidence de leur parti, est-ce que ça va dans bon sens pour vous, qui avez d'ailleurs bien connu ce parti?
Ce que vous dites est très juste et très révélateur. D'ailleurs, c'est sans doute l'une des raisons profondes du fait qu'au nom de mes convictions, parce qu'il était plus simple pour moi, si j'avais voulu faire carrière, de rester chez les Républicains et de continuer à être député, pourquoi j'ai quitté ce parti où je garde beaucoup d'amis? Le sujet, c'est que les Républicains, qui constituent une grande famille politique, qui a géré la France depuis le général de Gaulle, cette famille politique est devenue une auberge espagnole. Vous venez de le dire sur un événement, l'affaire de l'Assemblée nationale, mais au fond sur
tous
les...
Non, c'est juste un parti politique qui est traversé par différents courants.
Je ne crois pas. Je pense que...
Le Rassemblement national, tendance Marine Le Pen, n'est pas forcément le même.
Non, je pense qu'au Rassemblement national, vous avez des sensibilités, mais qu'ils sont manifestement d'accord sur l'essentiel. Nous, chez Reconquête, Marion Maréchal, qui vient du RN, je viens du LR, Éric Zemmour, que chacun connaît, on n'est pas d'accord sur tout, mais nous sommes d'accord sur l'essentiel. Au fond... Chez les Républicains, parce que je suis parti, ils ne sont d'accord sur rien.
Société, ça reste un peu assez libéral au niveau économique et européiste.
C'est la raison pour laquelle ma conviction, c'est que, d'ailleurs, même Jean-Luc Moudin, le maire de Toulouse, le dit hier dans les colonnes du Figaro, les Républicains sont hélas voués à mourir. Ils viennent quitter ce parti, c'était l'une des grandes figures de ce parti, en disant ils devront choisir. Les Républicains vont devoir choisir entre Emmanuel Macron et l'Union des droites.
En gros, vous misez sur un éclatement des Républicains avec une tendance de droite qui irait chez vous et une parti que rejoindrait Renaissance.
Cet éclatement est inéluctable. Nicolas Sarkozy le dit, Jean-Luc Moudin le dit, je le dis, nous sommes pleins à le dire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce mouvement a fini à moins de 5% à l'élection présidentielle, parce que les Français sentent bien qu'il n'y a plus de cohérence et de colonne vertébrale. C'est la raison pour laquelle Nous lançons cet appel à toutes les femmes, tous les hommes de bonne volonté qui, du RN à Reconquête, à Debout la France, aux Républicains, veulent non pas quitter leur parti, on aura besoin de ces différents partis, mais bâtir une coalition. Vous savez, Giorgia Meloni, pour remporter les élections italiennes, elle n'a pas gagné toute seule. Non seulement elle est passée de 3 à 26% parce qu'elle a été tenace, et c'est tout ce que je nous souhaite, nous.
Parce que c'est vrai que Reconquête n'a pas eu un seul député, n'a fait qu'un million de voix, que, entre guillemets, aux législatives.
Reconquête,
il y a eu un recul après les présidentielles.
Reconquête, c'est un tout jeune parti, c'était nos premières élections. Nous sommes quand même quatrième force politique de France, 2 500 000 électeurs à la présidentielle, on en est très fiers. Mais oui, tout ça, c'est du temps long. Vous savez, Giorgia Meloni, ses premiers scrutins, elle fait 1, 2, puis 3%. Aujourd'hui, elle fait 26%, elle est à la tête du Conseil italien. Et elle a bâti cette victoire sur une coalition.
Guillaume Pecquet, justement, ça ne vous a pas échappé qu'RCF est une radio généraliste chrétienne. Quand vous étiez étudiant, vous avez fondé Jeunesse Action Chrétienté avec Nicolas Bay, qui vous a rejoint, d'ailleurs vous l'avez retrouvé à Reconquête. Vous citez justement Giorgia Meloni comme exemple. Elle-même se définit comme une femme, comme chrétienne, une mère de famille. Est-ce que ces valeurs chrétiennes, c'est important pour vous dans votre combat politique?
C'est essentiel, c'est ce qui... Moi, je me suis converti quand j'avais 19 ans, je me suis...
Vous êtes issu d'une famille athée ?
Oui, qu'une satire, enfin, très, très française, au fond.
Oui, assez agnostique, on dira.
Voilà, il y avait quand même cette culture, surtout à travers mes grands-parents. Mais moi, je dois... Alors, je suis forcément un mauvais catholique, je ne suis pas... toujours très,
oh,
très
pratiquant. Ça ne regarde que vous, c'est pas
la,
le but.
La question n'est pas
on
là.
On parle de votre combat politique.
Le combat politique enraciné, l'amour de notre histoire, de notre culture, notre patrimoine, cette civilisation merveilleuse qui d'abord nous a enseigné la laïcité, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, cette force intérieure et cette religion incroyable quand même. C'est tellement facile quand on... s'agace ou quand on est déçu de s'en prendre à son prochain, qui fondé sur l'amour, oui, tout ça.
Est-ce que justement c'est
profondément
pas dur d'être conservateur et chrétien à la fois?
Comment?
Est-ce que c'est pas dur d'être conservateur et chrétien quand le pape François a quand même eu des positions pro-migrants, notamment à Lesbos quand il dit que la Méditerranée cesse d'être un cimetière?
Non mais je sais qu'il y a les dogmes et les analyses. Je sais aussi que les très beaux textes de Jean-Paul II ou de Benoît XVI expliquaient que la politique étant la plus haute des charités, il était le devoir des dirigeants politiques de préserver les nations de l'immigration, qui n'était pas toujours nécessaire.
Qui est un droit fondamental selon Jean XXIII aussi.
Et donc, ce que je dis sur la question des migrations, d'abord, le pape François, je pense, est un Sud-Américain qui connaît très mal la problématique migratoire et musulmane. Et
mais il est le pape quand même.
Loin de moi l'idée de donner une leçon au pape. Je dis juste que l'Église a tant de défis et de missions qu'elle devrait être bien plus prudente dans son expression sur cette question ô combien cruciale de l'immigration. Et moi, j'ai la conviction très profonde, ayant beaucoup travaillé sur les questions d'immigration, que la chose la plus noble, la plus belle chose qu'on puisse offrir à la question de l'immigration, c'est de permettre à n'importe quel être humain de rester dans le pays qu'il a vu naître.
Comment on peut lutter contre le problème démographique? Parce que vous prenez le cas de l'Italie souvent. En Italie, la population est vieillissante, encore plus que la France. C'est dramatique chez eux. Immigration, c'est très dur, en fait.
Mais c'est là qu'on n'est pas d'accord. C'est-à-dire, problème de natalité, je fais venir des immigrés. Nous, on a une toute autre politique. Problème de natalité, on laisse les immigrés chez eux et on engage une grande politique nataliste en France et en Europe.
Regardez, ça marche, les politiques natalistes?
Viktor Orban, ou, sur un autre sujet, je ne vais pas ouvrir la question de la guerre, Vladimir Poutine, toutes les bourses aux naissances qui ont été créées dans ces pays-là, prenons l'exemple hongrois, ont entraîné une hausse très significative de la natalité. Même en France, soyons honnêtes, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy, lorsque les premières politiques natalistes depuis le général de Gaulle voient le jour, la France est apparue longtemps comme la bonne élève de l'Union européenne sur la question de la natalité. Chez nous, dans la France rurale, par exemple, pour avoir des enfants, on a tous envie d'avoir des enfants, mais il faut des crèches. Il faut des assistantes maternelles,
Faut
des infrastructures. Tout ça a été détruit par les politiciens. Donc,
Guillaume Pecquet, justement pour finir, il y a un sujet sur lequel on n'entend pas forcément Éric Zemmour, c'est celui de la bioéthique. Vous avez voté contre la loi de bioéthique quand vous étiez parlementaire LR. En tant que chrétien de culture, comme vous vous définissez, ça vous parle?
Bien sûr qu'avec Éric Zemmour et Marion Maréchal, nous sommes très attachés à cette question-là. Notre position, elle est très simple. La vie prime. Sur la question de l'euthanasie, par exemple, j'ai participé à ces travaux, j'ai même vécu dans ma propre famille. La loi d'équilibre, Leonetti, sur les soins palliatifs, bien sûr, ne règle pas tous les cas, mais aucune loi ne peut régler tous les cas. Mais elle impose cette clause de conscience indispensable que personne n'a le droit de donner la mort.
Pour vous, il se suffit donc?
Elle se suffit magnifiquement et pour avoir rencontré nombre de médecins, d'infirmières. Vous savez, il y a 25 départements en France qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. La priorité sur cette question-là, c'est de donner les moyens de créer dans chaque département de France et de donner des moyens à tous ces soignants extraordinaires qui accompagnent nos compatriotes en fin de vie.
Merci Guillaume Pectier pour ce petit détour par les studios de RCF. Merci. Lors de votre passage au Mans.